bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission sur l'actualité du polar, présentée par Jacques.
Et Corinne, oh là là, quel temps! Eh bien, aujourd'hui, tu ne verras plus. Tu ne verras plus, c'est pas le 11e commandement, mais c'est un livre qui nous a beaucoup enthousiasmés et qui vient de paraître chez Rivage Thriller. Et pour en parler, nous rejoint son auteur, Pascal Dessin, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Et merci de nous rejoindre. Alors, ce roman, c'est votre 12e roman?
Oui,
à peu près.
Il me semble.
Il me semble, oui, ça commence à faire.
Si on prend en compte le poulpe, oui, ça doit être le 12e.
Ça fait le 12e. Donc, vous consacrez complètement à l'écriture?
Aujourd'hui, oui, ça fait maintenant quelques années, oui.
Ça fait quelques années. Oui. Vous résidez à Toulouse, vous êtes originaire du nord de la France, et dans ce roman, tout se passe autour de Toulouse, comme dans beaucoup de vos romans. Est-ce important d'ancrer son œuvre dans une région, dans une ville?
Oui, ça me paraît essentiel. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que, bizarrement, je me suis aperçu que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris Toulouse comme cible à 100%.
Tout à fait.
Dans les derniers romans, Loin des humains, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, je m'en étais un peu échappé parce que je ne voulais pas être prisonnier d'un cadre, hein, d'une image. Donc j'avais emmené mes lecteurs aux Philippines, dans les Pyrénées, en Charente-Maritime. Et là, j'avais un besoin de revenir complètement à Toulouse après 10 ans, puisque la dernière fois que ça s'était produit, c'était avec Du bruit sous le silence. Alors, pour répondre à la question, oui, je pense que c'est intéressant de capter l'âme, la poésie d'une ville. C'est ce que je cherche à faire et j'essaie aussi maintenant, puisque j'entame ma deuxième décennie d'écriture, elle est largement entamée maintenant, j'essaie de traduire l'esprit d'une époque, l'esprit de la ville, et puis comme ça de montrer un peu ce qui pourrait devenir une chronique de nos temps modernes.
Oui, de nos temps modernes et des êtres humains aussi.
Et tourmentés.
Voilà, oui. Donc vous disiez que c'est vrai que la plupart des romans précédents quittaient un peu Toulouse, le dernier d'ailleurs complètement, Cruelle Nature.
Complètement, oui.
Et je dirais un peu que ce livre est un retour, le retour, je ne sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'on y retrouve Félix Dutrait.
Oui.
C'est sa troisième apparition.
En tant que personnage principal, oui, c'est sa troisième, mais sa quatrième, puisqu'il était apparu très modestement dans Du bruit sous le silence.
Alors justement, donc, il avait déjà, c'était une des voix de Mourir n'est peut-être pas la pire de chose, une des voix principales de Loin des humains, et là, il devient carrément le narrateur principal avec une narration au jeu. Quelle était cette envie, tout d'un coup, de se rattacher à cet homme?
Dans le premier volet de mon cycle vert, hein, qu'on qualifie de cycle vert aujourd'hui, dans Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, il était un des personnages du récit. C'était un récit comme je les apprécie, un récit polyphonique. Et je ne savais pas encore qu'il prendrait de l'étoffe, qu'il s'étoffrait, je veux dire. Et dans Loin des humains, il a commencé un peu à prendre de l'épaisseur. Il m'est devenu, je dois l'avouer, aussi de plus en plus sympathique. Et donc j'avais le souhait, à un moment donné, de lui consacrer entièrement une aventure et d'écrire entièrement une histoire de son point de vue, ce qui permet de rentrer dans une certaine intimité. Et puis, pour moi, en termes d'écriture, de renouer avec une veine que j'ai mis de côté, mais que j'aime aussi et dont j'ai la nostalgie, c'est la veine des Émiles. La vie n'est pas une
question. Oui, c'est le cycle. Enfin, moi, la veine, moi, j'appelais ça le cycle des Émiles, mais bon.
Voilà, tout à fait. Donc voilà, il y avait envie chez moi de passer un long moment avec lui et de vivre une aventure littéraire comme on vivrait une aventure humaine avec un copain.
Voilà. C'était exactement ma question suivante. Donc Félix Dutrait, c'est un flic. Donc si c'était un de vos copains, comment vous le présenteriez?
Je dirais déjà qu'il n'a pas vraiment le moral. C'est pas un homme.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence
bon,
très noir.
C'est quelqu'un qui est plutôt compassionnel dans la vie. D'ailleurs, on peut se demander à ce titre si il est au bon endroit.
Alors, excusez-moi, je vous interromps parce que justement, il n'a pas vraiment le moral. Je voudrais juste citer la première phrase. Je pourrais rentrer un soir chez moi et, sans presque réfléchir, me tirer une balle dans la tête. Ça commence bien.
Bah, on le prend au très très mauvais moment de sa vie. Il se trouve que dans les aventures précédentes, il a beaucoup souffert et il se sent coupable aussi bon, d'une attitude qu'il a eue vis-à-vis d'une de ses collègues. Il se croit responsable du drame qui l'a touché. Donc, c'est un garçon sensible. Donc, dès qu'il est touché par un événement de cette sorte, il se pose des questions et il déprime et il peut sombrer. Il se trouve que là, je ne m'attarde pas sur la dépression de ce personnage. Il se trouve qu'il dit lui-même qu'il est en train d'en sortir. À voir.
Oui, oui, oui. Mais enfin bon, je citerai pas la dernière phrase où il a besoin de se noyer. Enfin bon, je veux pas vous contredire voilà, non plus.
Non,
hein.
Mais c'est vrai. Mais bon.
Bon.
Au moment où
c'est une figure de style, on va dire.
Au moment où on le retrouve, il a arrêté les antidépresseurs, ce qui est quand même un signe favorable.
Oui, et puis il vit quand même une jolie histoire d'amour sur une péniche.
Oui.
Mais c'est vrai, alors au début, pour résumer un tout petit peu, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais pour résumer un tout petit peu, il retrouve son amie Magali, dont vous venez d'évoquer son histoire dans les précédents. Il lui est arrivé quelques trucs tragiques. Ils ont vécu une petite aventure très fugace. Elle vient lui raconter une histoire très très bizarre de peaux rouges qui ont attaqué un petit train, les trains touristiques. Et finalement, cette histoire qui pourrait paraître rigolote s'est soldée quand même par un mort, mais un mort qui semble naturel, on verra par la suite. Rapidement, Félix va se retrouver confronté aussi au meurtre d'un taxidermiste et découverte assez horrible quand ils arrivent sur le lieu du crime. Ils se rendent compte que cet homme a été aussi énucléé.
Et on n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus, d'où le titre d'ailleurs « Tu ne verras plus ». Et là, on va plonger dans un de vos thèmes de prédilection. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cycle vert. Moi, je suis très contrariante, j'appelle ça le cycle de la nature, c'est pas grave. C'est en gros, si je pouvais résumer, les dégâts que l'homme peut causer à son environnement. Et ça, je trouve que c'est un beau thème de roman noir actuellement.
Oui, il était temps que la littérature en général et le polar en particulier français s'emparent de ces sujets, puisque nous sommes effectivement très soucieux tous de notre environnement. Enfin, il y a actuellement une prise de conscience. La nature est en train de nous rappeler que nous sommes de petites bêtes fragiles et que si on continue à jouer les apprentis sorciers, eh bien ça va nous retomber sérieusement sur la figure, pour être poli. Donc, il était l'heure qu'on s'occupe un peu de ces questions. Et bon, de ma part, ce n'est pas un hasard, puisque ma première vocation avant l'écriture, c'est la nature. Hein, à 10 ans, j'ai découvert dans un milieu extrêmement hostile, industriel à l'extrême, le nord de la France, j'ai découvert justement que nous causions d'énormes et irréparables dommages à ce qui était quand même la beauté. Donc, y a chez moi une conscience de ces problèmes depuis 30 ans maintenant. Et puis, tout récemment, les signaux d'alerte sont là. C'est douloureux d'ailleurs d'y songer, mais c'est une réalité. On peut constater qu'à bien des égards, on va tout droit dans le mur. Donc voilà, j'ai pour moi le besoin de raconter tout cela. J'ai besoin aussi de peut-être d'avertir, même si je sais que la littérature aujourd'hui n'a pas vocation de politique, hein, d'alerter, mais je crois que c'est absolument nécessaire.
Oui, je crois que de toute façon c'est un thème éminemment politique au sens étymologique du terme en fait, puisque c'est un des problèmes de société, et qui dit société dit être humain, et qui dit être humain dit la nature qui nous entoure, parce qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, on est intimement liés. Donc,
oui, c'est évident, et puis je crois que l'homme a oublié qu'il faisait partie de cette nature, c'est ça qui est complètement révoltant. Nous sommes au centre du problème, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, et on oublie qu'une des espèces à protéger aussi, c'est l'humain, quoi. Donc là, et on a en tant que créateur, que les intellectuels de leur côté fassent aussi ce travail, on a un devoir de raconter déjà, de sensibiliser. Je crois qu'on peut le faire par le biais de la littérature.
Et donc justement par le biais de « Tu ne verras plus », vous nous sensibilisez à des choses qu'on connaît très très peu. Par exemple, les trafics organisés d'animaux.
Oui.
Moi, j'ai appris des choses incroyables. Je suppose qu'elles sont totalement vraies. Ces colibris auxquels on bande les yeux et qu'on met dans des tubes à cigares pour
Exactement.
Les transporter d'un endroit à un autre.
Oui, non, mais ça, c'est trop grave pour être une anecdote, mais c'est une réalité que m'a rapporté un ami naturaliste, au même titre que cette dame arrêtée dans un aéroport d'Australie, avec sous sa robe des sachets plastiques remplis d'eau et de poissons tropicaux. Les trafiquants sont très inventifs.
C'est impressionnant ce qu'on apprend.
Et puis surtout, c'est aujourd'hui une source de devise pour le terrorisme international. C'est une source de devise à différents niveaux. Il y a vraiment là un gros problème dans tous les aéroports de France, d'Europe, du monde. Des douaniers font des découvertes spectaculaires et tout à fait incongrues.
Et sordides, surtout sordides.
Et sordides, oui.
Et vous dites donc que ce trafic, c'est le troisième, après la drogue et les armes. C'est vrai aussi?
Tout à fait. Non, là, de ce point de vue-là, j'ai essayé de mener une enquête approfondie et précise. Donc, il n'y a aucune invention sur cette partie du récit.
Alors, comme il y a des petites... c'est un roman très noir, mais on rit, on sourit beaucoup aussi. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire, mais peut-être qu'il existe, c'est le GOAR. Groupement ornithologique d'action rapide.
Eh bien là non plus, je ne l'ai pas inventé, mais je ne sais pas s'il est encore en activité. C'est un groupuscule qui a été désactivé. Et bon, ça c'est une lubie d'ornithologues. Il y a des ornithologues qui vont regarder les oiseaux comme ils iraient au casino. Ils traquent, si j'ose dire, l'oiseau rare. Et il y a des revues spécialisées sur le sujet. Bon, ça me paraissait tout à fait intéressant de révéler cet aspect de la nature humaine.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages. Là, on a parlé du thème général de l'histoire, mais donc Félix, ses amis, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours, on vous suit depuis presque les premiers romans. J'étais trop jeune pour lire le premier. Non, je plaisante. Ce qui nous impressionne toujours, c'est votre style et votre écriture. Vous arrivez en très très peu de mots à installer une ambiance par rapport à un décor, par rapport à un personnage, et par des ellipses fantastiques, vous arrivez à vraiment aller au tréfond de l'âme ici de Félix, de Marc et d'autres, et dans les autres livres des personnages. Comment vous travaillez ce style?
Oh là là. Mais bah d'abord merci du compliment, puisque je suis très très soucieux de style. Bon, moi j'ai l'impression d'avoir un style d'une grande simplicité, mais néanmoins je sais pas comment je fais. Bon, je travaille un peu à l'intuition, à l'instinct. Je travaille beaucoup mes personnages en amont. Je veux, avant de les écrire, les sentir en moi. Par exemple, je vais mettre en scène un apiculteur, je vais pendant des semaines me documenter, côtoyer un apiculteur, vivre auprès de lui et essayer de capter la moelle de sa vocation et de son être et de son expérience. À partir de là, quand je me mets à la page, eh bien, j'y vais avec du sentiment plutôt qu'avec des mots, quoi. Et j'espère que ça transparaît, parce que déjà, me semble-t-il, j'ai le souci de parler de ce que je connais, déjà. Alors ensuite, comment ça se révèle? Moi, je pense qu'il y a une part, ça tient en partie au fait que je donne au lecteur le soin d'écrire sa propre histoire, de s'inventer sa propre histoire. Je ne suis pas très descriptif. Donc, je révèle des attitudes, je révèle des comportements, des états d'âme, et le lecteur peut compléter le tableau d'une certaine façon, ce qui rapproche les personnages de lui.
D'où les ellipses littéraires.
D'où les ellipses, mais ça, c'est assez, y a rien de mathématique dans tout ça. Enfin, je veux dire, c'est l'intuition.
Et autre grande qualité que j'apprécie particulièrement, on a parlé du thème, c'est que justement vous arrivez à vraiment intégrer les histoires que vous racontez sur les trafics d'animaux, sur tout ce qui se passe autour de la taxidermie. Vous arrivez complètement à l'intégrer dans l'histoire et dans la narration sans arrêter le récit et nous dire « Bon, alors maintenant, je vais vous raconter ça ». Ça aussi, ça doit se travailler énormément.
Oui, sans doute, oui, oui. Alors là, je ne sais quoi répondre. Bon, peut-être que ça passe plus naturellement dans la mesure où je consacre beaucoup de narration aux parties dialoguées. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça paraît plus naturel. Quand on met en scène des personnages avec de la chair, qui ont une voix, qui racontent des choses, on se sent plus proche d'eux. Donc, quoi qu'ils puissent raconter, on est prêt à l'accepter et ça passe de toute façon, il est vrai, bien plus aisément dans le fil du récit.
C'est vrai que vous nous prenez souvent un petit peu comme confident d'un personnage ou l'autre et qu'on a hâte de les connaître un petit peu plus pour avoir encore un petit peu plus de confidence parce que c'est vrai qu'ils sont de plus en plus proches de nous et c'est aussi une des qualités de ces derniers romans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus vous nous parlez de la nature et des animaux et plus vous vous rapprochez des humains.
C'est fort probable. Je reviens à cette idée que l'homme aussi est une espèce en danger, que l'homme mérite notre attention, notre tendresse. Oui, mais je n'en oublie pas la première période de mon travail qui était centrée uniquement sur l'humain. J'essaie effectivement d'aborder ces sujets graves. Sans oublier on écrit des histoires d'hommes à destination d'autres hommes hein, et de femmes.
Oui, heureusement, non mais.
Puisque aujourd'hui la plupart des lecteurs sont des lectrices, il faut le préciser.
Eh oui, il faut le préciser, c'est une j'apprécie. Et dans les précédents donc il y avait cette narration au jeu, on revient à Félix Dutré, vous avez envie de continuer avec lui un moment ?
Je ne sais pas encore, ça dépendra des sujets qui m'arriveront. Pour l'instant, je vous avouerai qu'il m'agace un petit peu parce qu'il est un peu trop déprimé et puis j'aurais envie de mener une aventure avec quelqu'un qui a plus de mordant, on va dire, à la vie. Donc pour l'instant je vais le laisser au repos, mais dès lors qu'il va me manquer comme un vieil ami me manquerait et que j'ai un sujet qui lui convient, qui lui colle à la peau, et je vais sans doute le remettre en scène, mais ce n'est pas pour tout de suite.
Moi, je voudrais citer deux choses que j'ai trouvées dans votre biographie très officielle. La première, donc, on vient de parler d'une réalité tangible, c'est trafic d'animaux, vous travaillez beaucoup sur des dossiers, vous vous renseignez énormément. Je suppose, par exemple, que pour ce dernier, vous avez été discuter et voir le travail d'un taxidermiste.
Eh bien non.
Eh bien non.
C'est une expérience que j'ai vécue il y a deux jours à peine pour le tournage d'un sujet de télévision. Non, là, pour le coup, là, je n'ai pas rencontré de taxidermiste en amont.
Ça m'étonne parce que la scène de découverte du cadavre et d'un réalisme avec cette poussière, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression de rentrer. D'ailleurs, ça me rappelle un film d'Hitchcock.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai cru voir une très légère référence, mais bon, c'est peut-être aussi très personnel. Et c'est vrai que je pensais que vous aviez suivi cette profession d'un peu plus près. Et
non, j'en ai appelé aussi à certains souvenirs. On a eu la chance pendant un moment ici d'avoir un muséum d'histoire naturelle dans l'esprit du 19e, plutôt cabinet des curiosités. C'est quand même une réalité que je connaissais. Et puis, je me suis énormément documenté sur la question.
Voilà, moi je terminerai par deux citations, une de votre papa, une de votre maman. Alors la première, alors qu'on vient de voir à quel point vous collez à la réalité, mon père disait que j'écrivais des mensonges et il avait raison.
Ouais, ouais.
Pirouette d'écrivain là, hein. Petit peu. Et puis je voudrais terminer, conclure en vous remerciant d'abord de nous avoir rejoints, en recommandant fortement ce livre qui nous a beaucoup enthousiasmés, et finir par une citation de votre maman, « Lire, ça rend moins bête ». Donc je conseille vivement la lecture de ce roman. Merci beaucoup Pascal Dessin et à bientôt.
Merci Corinne, au revoir.
Au revoir.